C'est Nécesse à la Une. Bonjour, bonjour à tous. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à l'écoute de cette émission, vous le savez déjà, consacrée aux questions de la sécurité sociale au Gabon. Nous n'oublions pas de vous rappeler 30 minutes d'émission, dont les 5 dernières consacrées à la question de l'auditeur. Si vous voulez participer, appelez le 07 73 25 00. Je répète, 07 73 25 00, mesdames et messieurs. Pour ce 8e numéro de CNSS à la Une, nous allons aborder la question de déclaration trimestrielle des salaires ou DTS. Avec nous dans ce studio, M. Idriss Potier, c'est le responsable de ce service. M. Potier, bonjour.
Bonjour.
Alors, que peut-on comprendre aujourd'hui par DTS ou déclaration trimestrielle de salaire? C'est notre première question.
Ben avant tout, permettez-moi de vous remercier à mon nom propre et au nom de l'institution, parce que vous nous donnez l'occasion, bien évidemment, de revenir sur des préoccupations d'actualité. Pour revenir à votre question, la DTS c'est quoi? La DTS c'est simplement la déclaration trimestrielle des salaires. Aujourd'hui, la déclaration trimestrielle des salaires, c'est l'élément de base du système d'information de la CNSS. C'est l'élément par lequel les employeurs nous retournent un certain nombre d'informations. Ces informations ont trait aux éléments de salaire.
Monsieur Idriss, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déclinent les déclarations trimestrielles de salaire?
Une déclaration trimestrielle des salaires se décline en fait de deux ordres. Vous avez le haut de la déclaration, vous avez les informations liées au numéro cotisant, à la raison sociale, à la période déclarée. Vous avez ensuite le bas de la déclaration, vous avez des informations liées aux assurés, donc le numéro assuré, le nom et prénom. Vous avez les colonnes qui précise le taux de cotisation selon que nous soyons dans un régime. Vous avez ensuite les éléments liés à la durée du travail. Parce que au niveau de la sécurité sociale, nous intégrons ce que nous appelons la notion d'heure travaillée, donc la période de cotisation, qui est de 20 jours, mois, ou de 133 heures effectuées. La période d'assurance, nous disons qu'il y a une période d'assurance quand vous avez effectué 20 jours de travail ou 133 heures de travail. Ensuite, vous avez les colonnes salaire plafonné et déplafonné. Le salaire plafonné, c'est le montant soumis à cotisation compris entre un plancher qui est le SMIG et un plafond qui est 1 500 000. Vous avez ensuite le salaire déplafonné qui est le salaire soumis à cotisation qui est supérieur à 1 500 000 francs. Voici un peu comment se décline une déclaration trimestrielle des salaires.
Alors, qui doit déclarer trimestriellement ses salaires? Qui doit les déclarer exactement?
Mais c'est l'employeur exclusivement qui déclare les salaires. Il déclare les salaires pour une période bien précise. Nous appelons ça déclaration trimestrielle des salaires parce qu'elle est produite chaque trimestre.
Pourquoi pas par mois?
Parce que bien évidemment, les prélèvements sont mensuels, oui, en termes d'assiette de cotisation, mais le retour à la CNSS est trimestriel. Comme les prestations également qui sont calculées mensuellement, mais sont reversées aux assurés trimestriellement.
Alors ce processus, à qui profite-t-il exactement?
Mais il profite exclusivement aux salariés. Vous savez, il est très important pour un employeur qui a pignon sur rue de procéder à ses déclarations aussi bien fiscales que sociales. La CNSS aujourd'hui accompagne certains employeurs pour que cela se fasse systématiquement. Le premier, bien évidemment, à être profitable, c'est l'assuré, comme je le disais tantôt, parce que le fait qu'il soit immatriculé, ensuite que les salaires soient déclarés, que les cotisations soient payées, bien évidemment, toutes les questions des droits prises en compte. Si aujourd'hui un employeur ne déclare pas ses salariés, bien évidemment, la question des droits ne seront pas, bien évidemment, réglés.
Oui, nous allons revenir sur cette question de non-déclaration. Et ce que nous voulons savoir davantage, c'est ces déclarations, est-ce qu'elle est obligatoire?
Ben, la déclaration est obligatoire. La loi est claire là-dessus. Tout employeur a 8 jours francs pour déclarer ses salariés. Mmh. Tout employeur, je le répète, a 8 jours francs pour déclarer ses salariés. Ça ne veut pas dire qu'au bout du 8e jour, il commence la démarche. Il a 8 jours pour le faire.
C'est obligatoire.
C'est obligatoire. Maintenant, nous avons quelques cas de dérapage, mais bien évidemment, les employeurs qui sont aujourd'hui des professionnels, qui comprennent la nécessité de procéder à cette étape-là, s'exécutent et bien évidemment rentrent dans le sillon et nous constatons qu'il n'y a pas de problème à ce niveau.
Alors, vous parlez de dérapage, ça veut dire certainement qu'il y a un petit problème de communication, et pourtant, vous avez dit tout à l'heure que vous accompagnez juste souvent ces employeurs dans leur déclaration. Comment est-ce que vous le faites de manière pratique?
Avant, justement, de venir sur le comment nous le faisons de manière pratique, je ne vais pas dire que c'est un dérapage. Il y a, comme dans tout système, des gens qui passent à travers les mailles du filet. Malheureusement, cela existe aussi chez nous.
Mais ça veut dire que les mailles sont pas serrées. Il doit y avoir de grosses mailles.
Le système est déclaratif.
D'accord, ok.
C'est déjà un des principes. Le système est déclaratif. Il revient à chacun des employeurs de s'exécuter. À côté de ça, la CNSS a mis en place un certain nombre de moyens pour traquer ces employeurs-là. Nous avons une brigade économique qui, au quotidien, essaye de voir, de chercher les employeurs qui passent entre les mailles du filet. Côté pratique, tout employeur venant vers nous, bien évidemment, a droit à l'assistance requise pour comprendre comment une déclaration trimestrielle des salaires se fait. Bien évidemment, il y a des aspects liés à l'immatriculation, je pense qu'ils ont déjà été abordés dans ce studio. Ensuite, il y a des aspects de déclaration qui respectent, bien évidemment, un chronogramme établi. À côté de ça, il y a la nécessité, bien évidemment, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, il y a des points qui sont abordés pour que l'employeur comprenne bien qu'il est nécessaire pour lui, d'abord pour lui, ensuite pour ses salariés, que cela soit respecté. Il y a les efforts de communication qui sont faits, parce que aujourd'hui, si vous arrivez dans nos locaux, aussi bien au siège à Libreville que dans toutes les provinces, parce que nous avons à l'intérieur du pays aussi bien des agences que des délégations, et vous avez des collaborateurs, des personnes qui vous prennent en charge dès que vous y êtes, dès que vous y avez accès. Nous avons des dépliants qui ont été mis en place pour expliquer chacun des points précisément, et la déclaration trimestrielle des salaires fait également l'objet de cette explication-là. Ensuite, il y a tous les aspects de communication qui sont au quotidien mis en place pour que, bien évidemment, nous soyons le plus proche possible des usagers, des employeurs, des assurés.
Alors, en cas de non-respect justement de ces déclarations, donc, en fait, état aujourd'hui, vous parlez de la notion obligatoire. Est-ce que vous avez des mesures ou l'institution des mesures coercitives?
Comme dans tout système organisé, nous avons des moyens de coercition. Nous avons l'article 30 du Code de sécurité sociale qui nous dit que l'employeur est tenu de produire une déclaration trimestrielle des salaires faisant ressortir pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours du trimestre écoulé le montant total plafonné des rémunérations ou gains perçus par les intéressés ainsi que la durée de travail effectuée. Cette déclaration sera adressée à la caisse et selon les modalités fixées par arrêté du ministre. L'alinéa second vous dit « Le défaut de production aux échéances prescrites de la dite déclaration donne lieu à l'application d'une majoration au profit de la CNSS dans les conditions fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Prévention sociale. » En fait, il faudrait dire que à partir du moment où un employeur ne s'exécute pas dans les délais ou ne s'exécute pas du tout, prenons le cas où il ne s'exécute pas dans les délais, vous avez une taxation d'office de 15%, dépôt tardif de déclaration. 15% qui est appliqué sur la cotisation.
Alors, c'est une forme de majoration?
C'est une forme de majoration, comme je le disais tantôt en déroulant l'article. C'est une forme de majoration. Pour celui qui ne s'est jamais exécuté, ensuite, par le jeu d'un certain nombre de concours de circonstances, est retrouvé à partir de la date d'embauche du premier salarié. Nous remonterons toutes les périodes en produisant les déclarations. Et à partir de cette date-là, 15%, et ensuite 3% de fractions de mois vont être ajoutées. Donc, vous avez raté un trimestre 15%, un mois supplémentaire 3%, donc ça passera à 18%, 21%, ainsi de suite.
Est-ce que cette mesure incite les employeurs à se conformer?
Plus de la majorité, fort heureusement, j'ai envie de dire, les employeurs immatriculés, plus de la majorité, et j'ai envie de dire d'ailleurs, aux trois quarts, s'exécutent. Maintenant, les cas isolés sont également traités. Ils arrivent grâce à, j'ai envie de dire, à cette épée de Damoclès, à rentrer dans le sillon tracé.
Et en cas de récidive, comment ça se passe?
Malheureusement, ou pour ne pas dire heureusement, à côté de ça, il y a d'autres éléments. Parce que les sanctions peuvent aller jusqu'au pénal.
Il y a eu des cas?
Oui, il y a eu des cas. Nous n'avons certainement pas, pour question de pudeur, nous n'avons pas communiqué là-dessus. Le secret professionnel également, mais il y a eu des cas.
Naturellement. Alors, comment fait-on pour obtenir ces DTS? Où est-ce qu'on peut les procurer?
L'obtention de la déclaration de salaire est toute simple. Déjà, vous êtes immatriculé. À période précise, cette déclaration est disponible au niveau de notre siège, c'est à Libreville, et aussi bien au sein de nos agences et délégations à travers le pays. À côté de ça, nous procédons à des distributions directes aux grands cotisants, aux grands comptes, à des périodes données. Hein. Pour tous les employeurs qui vont devoir constater ou qui constatent que à une période donnée, il n'a pas reçu la déclaration, il lui revient à lui de courir vers un de nos centres et demander à ce qu'une déclaration lui soit produite et ce sera fait. Mais j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, tous les employeurs qui sont réellement répertoriés chez nous reçoivent leur déclaration.
Très bien. Alors, Monsieur Potier, à quelle période doit-on justement recevoir le DTS et quel type d'informations trouve-t-on dans ces fichiers-là?
Bon, la période de réception de la DTS, en fait, l'année est subdivisée en 4 trimestres. Vous avez, pour le premier trimestre de l'année en cours, la déclaration part du siège courant mois de mars et est reçue au plus tard au 30 mars. Ensuite, l'employeur a jusqu'au 30 avril pour traiter la déclaration. Mais en fait, pour être précis, c'est à partir du 5 mars qu'elle est disponible. Ça, c'est pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, c'est à partir du 5 juin. Pour le troisième trimestre, c'est à partir du 5 septembre. Et pour le quatrième trimestre, c'est à partir du 5 décembre. Alors, pour chacun des trimestres, il a, pour le premier trimestre, au 30 avril pour nous retourner la déclaration, donc la traiter, la renseigner. Au 31 juillet pour le deuxième trimestre. Au 31 octobre pour le troisième trimestre. Et au 31 janvier de l'année N plus 1 pour le quatrième trimestre.
Vous avez parlé tout de suite des traitements. Est-ce que, justement, ces traitements sont respectés dans les temps?
Pour ceux qui veulent bien s'exécuter, il n'y a pas de problème. Pour être précis, près de 55% des employeurs nous retournent les déclarations dans les délais requis.
C'est-à-dire combien de jours?
Les 30 jours de traitement après réception de la déclaration. Mmh. Ensuite, il y a ceux qui ne s'exécutent pas dans les délais, mais là, bien évidemment, ils sont tout de suite sanctionnés par les dispositions prévues, 15% de pénalité par rapport au dépôt tardif de déclaration.
Quel est le moment idéal pour pouvoir retourner justement ces déclarations auprès des employeurs?
Pour les employeurs, vous voulez dire?
Oui, pour les employeurs, bien sûr.
Mais le moment idéal, c'est bien évidemment le respect des périodes que je viens, moi, tout à l'heure de citer. Je vais d'ailleurs le reprendre. Vous avez le 30 avril pour le premier trimestre de l'année N, le 31 juillet pour le deuxième trimestre de l'année N, le 31 octobre pour le troisième trimestre de l'année N, et le 31 janvier N plus 1 pour le quatrième trimestre.
Monsieur Idriss, peut-être nous dire, pourquoi est-il nécessaire pour un employeur de déclarer ses salariés? C'est si important.
Le premier des éléments, c'est que déjà vous vous mettez en phase en tant qu'employeur, vous vous mettez en phase avec la législation. L'employeur est tenu sous 8 jours de s'immatriculer d'abord, ensuite sous 8 jours de déclarer les salariés. La matérialisation justement de cette déclaration est la production, la génération d'un numéro assuré. Ensuite, puisqu'il travaille pour des périodes données, il est tenu de produire des déclarations. Mais ces déclarations, la première des choses, c'est qu'elles constituent la base d'information pour l'état de carrière de l'assuré. Parce que, in fine, ce salarié qui aura travaillé un certain nombre d'années doit être éligible à une pension. Mais cette pension est assise sur la déclaration de salaire, sur chacun des trimestres, ensuite année par année. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, c'est que pour l'état de carrière, bien évidemment, tous les droits, donc les allocations familiales, la prime de rentrée scolaire, la couverture maladie dans certains cas, les évacuations sanitaires, nous avons besoin, pour pouvoir traiter ces prestations-là, des salaires de référence. Mais les salaires de référence émanent, bien évidemment, de la déclaration trimestrielle de salaire. Troisièmement, nous sommes dans un système intergénérationnel de cotisation. Ceux qui travaillent aujourd'hui ont cotisé, cotisent autant pour moi, pour ceux qui ont travaillé hier. Et ceux qui vont travailler demain cotiseront pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas cotiser sans déclarer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas cotiser sans déclarer les salaires. Vous êtes dans l'obligation de déclarer les salaires. C'est une nécessité.
Ces déclarations, quand on vous écoute bien, ça, il y a plus d'avantages pour l'employé que l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur gagne exactement?
Ben, l'employeur, ce qu'il gagne, c'est qu'il a un salarié qui, j'ai envie de dire, est dans des dispositions de pouvoir travailler.
Donc plus productif.
Parce que plus productif, les aspects sociaux sont pris en compte, sont réglés, il a une couverture sociale totale, donc moins exposé aux méfaits de la société de façon générale, parce que en cas de maladie pour lui-même, mais également pour ses ayants droit, enfant putatif, épouse légitime, et dans certains des cas, la concubine, mais ils sont couverts, donc pris en charge par notre système de sécurité sociale. Mais ça encore, ça repose exclusivement sur la déclaration des salaires, et bien évidemment, le paiement des cotisations. Ça, c'est l'avantage premier pour l'employeur, parce que vous aurez un salarié qui est productif, pour qui les effets extérieurs n'auront malheureusement pas d'impact sur lui, donc il sera beaucoup plus productif.
D'accord. Alors dites-nous un peu la différence qu'il y a entre déclaré et immatriculé. C'est les deux mots qui ont tendance à se ressembler là.
L'immatriculation, j'ai envie de dire, c'est l'inscription d'un salarié dans notre système. L'immatriculation. La résultante de cette immatriculation, pour un employeur, c'est la génération de son numéro cotisant. Pour un assuré, c'est la carte d'assuré, donc la génération des numéros assurés. Ensuite, on vous produit une carte d'assuré. La déclaration, c'est la déclaration de salaire. C'est la déclaration, la production de la déclaration trimestrielle des salaires. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire que ce n'est pas un document banal. C'est un document dont les informations sont nécessaires. Vous avez sur une déclaration deux grandes zones très importantes. Vous avez le haut de la déclaration. Vous avez le numéro cotisant, vous avez la raison sociale. Le numéro cotisant, c'est un numéro qui est généré par la CNSS exclusivement. La raison sociale, c'est l'employeur qui dit comment ma société va s'appeler société X, Y. Vous avez la période déclarée, parce que une déclaration ne doit pas systématiquement être la même pour chacun des trimestres. Permettez-moi. Vous avez le bas de la déclaration, où vous avez là-dedans les informations liées à l'assuré, au salarié, donc son numéro assuré. Son nom et prénom, sa date d'embauche et tous les éléments du salaire, bien évidemment, sur lesquels vont s'appuyer les taux de cotisation. Je voudrais rappeler que on a tendance de croire que la CNSS, de façon générale, on dit c'est le secteur privé. Oui, c'est le secteur privé, mais là-dedans, nous avons 5 branches. Vous avez le régime général, la présentation de la déclaration reste la même. Vous avez le régime administration. Vous avez le régime collectivité locale, vous avez le régime gens de maison, donc le personnel domestique, et vous avez les assurés volontaires. Pour tous ces régimes que je viens de citer, le principe de traitement reste le même, les dates de production des déclarations restent également les mêmes, la manière de produire la déclaration est quasi identique, donc l'organisation reste la même en ce qui concerne la gestion de la déclaration trimestrielle des salaires.
Alors, vous venez de parler du dernier régime, de ceux qui...
Assurés volontaires.
Voilà, assurés volontaires, c'est qui déclare ces assurés eux-mêmes?
Bon, la loi dit que c'est un salarié qui a au moins exécuté 6 mois de travail continu, donc qui aura été déclaré. C'est un type de salarié qui décide de se mettre à son propre compte. Alors, lors de l'immatriculation, permettez-moi, lui-même, il devient son employeur.
Est-ce qu'ils sont nombreux comme ça?
Ils sont nombreux, non, mais je n'ai pas le chiffre avec précision. Mais ce que je puis vous dire, c'est que cela existe. C'est un régime qui est pratiqué par les populations.
Est-ce qu'on peut déclarer ses salariés sans les immatriculer?
On peut déclarer ses salariés sans immatriculer. Dans la logique, ça ne devrait pas se faire. Parce que la matérialisation de l'affiliation, c'est la génération d'un numéro assuré, donc la carte d'assuré. Dans la logique, ça devrait être ça. Maintenant, pour des raisons qui peuvent être nombreuses, hein, il ne nous est pas donné aujourd'hui de donner des explications précises là-dessus, mais ça concourt de la bonne foi de l'employeur. Nous comprenons que quand il va déclarer son salarié, sans qu'il ait un numéro assuré, il est au moins au fait des réalités. Et ces cotisations, ces déclarations, ces cotisations sont reçues dans notre système. Ce n'est pas perdu. Parce que le principe, c'est qu'un assuré est rattaché à son employeur. Il y a le compte cotisant employeur. Donc, toutes les cotisations qui sont impactées sur le compte assuré sont avant tout rattachées sur l'employeur. Donc, l'employeur qui déclare ses assurés, sans les immatriculer, cela est recevable. Mais le conseil que nous donnons avec précision aux employeurs, c'est que, bien évidemment, ils doivent procéder à l'immatriculation de leurs salariés.
Voilà, mesdames et messieurs, pour des milliers d'auditeurs qui nous écoutent, je vous rappelle que pour participer à cette émission, vous pouvez appeler au 07 73 25 00. Vos questions seront enregistrées.
Radio Gabon, Radio Gabon.
Allô.
La mienne aussi.
La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
Madame, monsieur, vous venez tout de suite d'écouter le jingle de transition. C'est pour vous dire que nous passons à la phase question de l'auditeur. C'est notre standardiste Maison Chico Alvarez de Guinoumaville qui vient de nous apporter le feuillet des questions qu'il vient de recueillir auprès des auditeurs qui appellent depuis le début de cette émission. Je m'en vais rapidement vous lire cette première question de monsieur Rondo Samuel qui appelle de Libreville. Il dit, je cite... Monsieur, je ne comprends pas pourquoi moi j'ai 4 enfants que j'ai eu avec des femmes différentes. Je ne perçois pas des allocations alors que ma voisine qui est presque dans le même cas que moi, c'est-à-dire 5 gosses, pères différents, perçoit des allocations. Monsieur Idriss.
Bon, ça c'est quand même un aspect assez technique hein parce que c'est géré à notre niveau par la direction des prestations techniques, mais si je puis dire une chose, c'est que le système de sécurité sociale, en fait, fait un peu la part belle aux femmes.
Pourquoi? Parce que cette femme veut, Dieu veut, ou bien?
Je ne sais pas, moi je ne suis pas là dans la peau du législateur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les esprits, en son temps, mais ce que je sais, c'est que l'épouse légitime, si vous êtes marié, vous avez le droit d'aligner jusqu'à 6 enfants. Mais il y a une petite subtilité, une petite précision que je voudrais dire, apporter. C'est qu'il y a une chose entre aligner ses enfants, il y a une différence autant pour moi entre aligner ses enfants et l'ouverture des droits liés à l'alignement des enfants. Ce monsieur qui a 4 gosses peut les aligner. Ce sont de fait ses ayants de droit. Mais il ne peut pas solliciter une ouverture de droits à tous ses enfants. Sauf erreur de ma part, il ne pourra bien évidemment obtenir que l'ouverture de droit liée à un seul enfant. En plus, je crois savoir, je pense qu'il est peut-être même célibataire. Ce qui va se passer, c'est que ce monsieur, s'il se marie, si le système aujourd'hui avait bien voulu que bon, il puisse ouvrir les droits, qu'on puisse ouvrir les droits pour tous ses enfants, mais le jour où il se marie et qu'il fait des enfants avec son épouse légitime, il pourra plus les aligner. Donc, c'est un peu cette protection-là qui est faite. Pour la femme, qui a je ne sais plus combien de gosses, je pense que vous disiez 5 gosses, mais bon, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, mais je suis désolé, la sécurité sociale, moi je suis un homme, hein, la sécurité sociale fait la part belle aux femmes. Moi-même je suis un peu victime de ça, parce que je suis un homme, mais je crois que c'est normal, hein, c'est comme ça que c'est fait.
Allez, bien sûr. Bon, on espère que Monsieur Rondo est satisfait de la réponse. Nous avons un autre auditeur, hein, lui, qui voudrait savoir la définition juridique de la notion de ayant droit, lui en tant que frère d'un parent décédé, donc parent direct, n'est-il pas accessible à cette catégorie?
Bon, les ayants droit, je crois que les choses sont assez précise. Je n'ai malheureusement plus l'article en tête, mais voici ce qu'il dit en substance. Les ayants droit sont les enfants légitimes, putatifs, les enfants reconnus dont la loi dispose que vous êtes aujourd'hui le tuteur légal, les parents, donc les ascendants, le père, la mère. Sauf erreur de ma part, les frères et sœurs ne rentrent pas directement. N'intègre pas ces aspects-là, cet aspect des endroits, sauf erreur de ma part.
Voilà, madame, monsieur, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons clôturer notre émission. Monsieur Idriss, vous avez certainement un conseil adressé aux assurés?
D'abord à l'endroit des employeurs, que aujourd'hui nous demandons à ces gens-là, aux employeurs, de procéder aux immatriculations, aux déclarations des salariés, parce que c'est important. On pense que la cotisation, c'est simplement pour la pension à venir, la pension future, quand on pour ces vieux jours, mais non, il y a toute une batterie d'éléments. Il y a des droits, il y a plusieurs droits, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, les allocations, les primes de rentrée scolaire, la couverture maladie, la couverture médicale, tous ces aspects-là sont assis sur l'immatriculation et sur la déclaration des salariés. Pour les salariés, moi je voudrais les appeler à s'impliquer un peu plus dans la gestion sociale qui est faite par les employeurs. Ils peuvent se rapprocher de nous et demander officiellement des états de carrière pour vérifier si les employeurs procèdent aux déclarations de salaire, parce qu'il y a des prélèvements qui sont faits, ça c'est important de le préciser, il y a des prélèvements qui sont faits aux salariés. Et donc, vérifier si les cotisations sont reversées officiellement, nous répondrons officiellement pour dire que bon, votre employeur, société X, retourne les déclarations et paye les cotisations. Sinon, monsieur Y, dans son cas, ne retourne pas les déclarations et ne paye pas les cotisations. Nous répondons à ça officiellement. Ça, c'est pour les amener à s'impliquer un peu plus dans la gestion de cette question de la sécurité sociale.
Voilà, mesdames, messieurs, sur ce CNSS à la une, c'est terminé. Pour les questions que nous n'avons pas pu aborder dans ce studio, vous aurez toutes les réponses par contact direct de la part de la CNSS à travers vos numéros de téléphone déclinés au cours de l'émission. Nous disons merci à notre invité, Monsieur Idriss Potier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Idriss Potier, je vous l'ai dit, il est chef de service à la DTS, déclaration trimestrielle des salaires à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui marque à travers cette émission pédagogique la volonté d'être toujours plus proche de ses usagers. À la technique, Didier Makaya, devant ce micro, Romuald de Kumba. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'arrêté portant avantage en matière de frais professionnels. À très bientôt.
Caisse nationale de sécurité sociale, notre ambition, mieux vous servir.